Club Foot Marseille. Posez vos questions, réagissez, exprimez-vous.
04 42 38 08 08.
18h23, c'est maintenant le Club Foot Marseille comme tous les lundis. Bonsoir Fabien Leduc.
Bonsoir, trois explosions au Stade de France vendredi soir, les premiers attentats kamikazes jamais réalisés sur le sol français en marge de la rencontre France-Allemagne. Quatre morts dont les trois terroristes, et si on était passé à côté d'une véritable tragédie dans ce Club Foot spécial, Mario Albano du journal La Provence et Michel Gault, le président du district de football de Provence qui était au match, il nous raconte ce soir. Le Marseillais Lassana Diarra a perdu une cousine au cours de ces attentats. Il a tenu à faire quand même partie du groupe qui affrontera l'Angleterre demain à Wembley, où la Marseillaise sera reprise par tout le stade. Nous filerons à Londres pour voir comment l'équipe de France aborde cette rencontre. Des attentats qui posent ce soir beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait interrompre le match? Est-ce que la sécurité aux abords des stades est suffisante en France? Est-ce qu'il faut craindre pour l'Euro 2016 qui arrive en juin prochain? Nous serons en ligne avec l'adjoint au sport de la ville de Marseille, Richard Miron. Et comme d'habitude, pour parler de tout cela, nos spécialistes, René Malville, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et Dédé de Roca, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
On parlera aussi, messieurs, de cette banderole déployée par les ultras. Nous sommes Paris, banderole réduite en petits morceaux quelques heures après. On attend vos appels. Dites-nous ce soir si vous êtes scandalisé par cette banderole vandalisée, si vous craignez désormais d'aller au stade et s'il faut craindre pour l'Euro 2016. 04 42 38 08 08, Club Foot Marseille, spécial jusqu'à 19h.
Le Club Foot Marseille.
Trois jours après les attentats, donc les plus sanglants qu'ait connu la France, avec près de 130 morts, 350 blessés, toujours beaucoup d'émotions ce soir et désormais aussi pas mal de questions, on l'a dit, autour de la sécurité, aux abords et dans les enceintes sportives. Tout d'abord, un mot, messieurs, sur ces attentats qui ont eu lieu au Stade de France. Est-ce que vous avez l'un et l'autre, de René Malville, Dédé de Roca, la conviction qu'on est passé à côté d'une vraie tragédie?
Ah, absolument, absolument. Enfin, je pense que si le type qui s'est fait explosé là, à côté du stade, il avait fait, mettons, quand il y avait la rentrée ou quand il y avait les sorties, s'il avait attendu même une voiture bélier, un mec qui se met, une voiture bourrée qui rentre dans les... On est passé à côté d'une catastrophe, mais c'est déjà une catastrophe, mais alors ça aurait été l'apocalypse.
Un vrai carnage. Ouais. Dédé de Roca, comment vous avez vécu cette rencontre, vous?
Oui, la rencontre, je l'ai vécue normalement, parce que comme tout le monde, j'ai bien entendu les explosions, mais j'ai cru que c'était des bombes agricoles, que quelquefois les supporters lancent sur le terrain. Alors, je suis d'accord avec René, on a évité une véritable boucherie, parce que... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait le président de la République que les contrôles de sécurité étaient beaucoup plus sévères? Toujours est-il que les trois loustiques qui voulaient entrer dans le stade n'ont pas pu. Et ils voulaient pourquoi entrer dans le stade? C'est facile à comprendre, hein. Se faire sauter, bien sûr, ce qui aurait causé la mort de quelques personnes autour d'eux, mais surtout déclencher des mouvements de foule. Et on a vu au Ezel ce que les mouvements de foule pouvaient provoquer. Oui, on est passé à côté d'une grande catastrophe.
Alors, messieurs, avec nous en direct, quelqu'un que vous connaissez, sans doute Dédé de Roca, certainement. Mario Albano, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Dédé.
Salut Mario.
Bonsoir Mario, merci d'être avec nous ce soir. Journaliste qu'on ne présente presque plus à La Provence, spécialisé dans le foot et dans l'OM. Et pas mal de Coupes du Monde derrière vous, d'Euro. Vous étiez, Mario Albano, au stade vendredi soir. Et vous n'avez pas vraiment saisi ce qui se passait au moment où vous avez entendu les explosions?
Ben non, parce que quand on a l'habitude de suivre l'OM, des explosions, des pétards, même des bombes agricoles, c'est quand même assez fréquent. J'ai souvenir d'un match de Coupe de France de l'OM il y a 25 ans à Ajaccio, où j'avais entendu deux bombes agricoles dans le stade de Mezzavie, et c'était beaucoup, beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus assourdissant que ce que nous avons entendu depuis la tribune de presse vendredi soir, puisque ça s'est passé de l'autre côté par rapport à nous, donc à 200 mètres, et entre les explosions et moi, il y avait de la distance, mais en plus, toute la structure du stade et 80 000 personnes qui criaient, donc c'était quand même, c'était fort, c'était impressionnant, mais pas suffisamment pour croire qu'il s'était passé ce qui s'est passé.
Pourtant, on l'a vu sur les images, on a Patrice Evra, c'est la première explosion, je crois, il lève la tête et on voit bien dans son regard qu'il se demande ce qui se passe.
Patrice Evra, arrière-gauche, ça se passait de son côté. Il n'était pas loin, lui. Lui, il n'était pas loin.
Et Mario, donc, est-ce que vous considérez donc ce soir, quelques jours après ce match, que la sécurité du Stade de France a bien fonctionné vendredi soir?
Je n'ai entendu que la fin de ce que disait Dédé, mais sur ce qu'il a dit, je suis entièrement d'accord, à savoir que, heureusement, que le match s'est poursuivi normalement. Alors c'est un petit peu irréel pour moi et pour pas mal de mes confrères, parce que nous suivions un match important, mais je prestige France-Allemagne, sur lequel il fallait travailler, écrire un papier, tout en recevant en même temps des textos, des infos sur ce qui s'était produit dehors et ce qui se produisait dans Paris. Donc, si les gens, si on avait demandé au public de quitter le stade à ce moment-là, même dans le calme, ça aurait été effectivement quelque chose de terrible, parce que j'ai toujours dans ma tête le bruit du speaker au stade Furiani qui disait ne tapez pas du pied, et le public redoublait de violence en tapant deux fois plus fort des pieds dans la tribune. Si on avait dit aux gens quittez le stade calmement, ils seraient tous partis en courant. Donc effectivement, les choses ont été réglées au mieux, en n'annonçant pas au micro ce qui s'était produit, qu'il n'y ait pas eu d'autres victimes que celles directement concernées par les explosions. Je pense que c'est bien. Et si le terroriste qui s'est fait exploser après avoir été repoussé par un papier n'est pas entré dans le stade, c'est bien que la sécurité a fonctionné.
Merci en tous les cas de votre témoignage, Mario Albano. Je précise que ensuite, après le match, vous êtes allé dans Paris et que vous avez rencontré un Marseillais qui est passé tout proche de la mort avec ces attentats. René Malville, ce qu'il disait là, Mario Albano, c'est en fait il fallait ne rien dire, il fallait confiner ces spectateurs, leur faire croire que rien ne se produisait de tragique à l'extérieur. C'était la bonne solution?
Moi, je pense que ça a été la bonne solution, parce qu'effectivement, si on commence à dire, bon, écoutez, il y a une électricité, il faut sortir, bon, c'est pas grave. Si on leur dit dehors, ça pète, il y a les grenades, il y a les terroristes, mais c'est la panique monstre. Rien que hier, on a vu, il y avait une manifestation, je sais pas où, place de la République à Paris, il y a un con qui a jeté deux ou trois pétards et ils ont failli se piétiner tous. Je veux dire, alors là, si en plus on leur dit ça. Non, mais ça a été une bonne chose, ça a été responsable, je trouve que là, tous services confondus, police, stade, dirigeants d'équipe de France ou de quoi, ils ont bien réagi.
Rapidement, même au stade, on s'est rendu compte que, alors que le stade se vidait petit à petit, je ne sais pas pourquoi, une rumeur, un bruit, allez savoir quoi, mais les gens ont reflué à toute vitesse vers le stade de Londres, mais sont entrés vers le stade de France et sont entrés sur la pelouse. Donc, on peut imaginer que, là, pour une fois, je ne sais pas qui il faut féliciter, les organisateurs, la fédération, mais toujours est-il qu'ils ont agi sagement pour éviter le pire.
Et il y avait à peu près 65 000 personnes dans le stade de France. On va faire un premier point sur la circulation.
Et nous avons sur la D9 4,5 km de bouchons entre le Parc Club du Golf et la Pioline vers Aix. Vous allez mettre plus de 20 minutes, c'est beaucoup ce soir sur la D9. Dans l'autre sens vers le TGV, 1,5 km entre la Gromeuse et le Lac Bleu, 10 minutes. Sous le TGV vers Aix, un quart d'heure de bouchons. La Gromeuse Calas, 1 km de bouchons vers Plan de Campagne pendant un quart d'heure. Et puis entre la Gromeuse et la Durane en direction du pont de Saint-Pons, on a au moins un quart d'heure, 20 minutes de bouchons. La D59, pôle d'activité d'Aix vers la Mounine, 20 minutes. Donc c'est très compliqué en campagne aixoise. Sinon à Aix, il y a le feu rouge de Célonie, 5 minutes. Les Hauts-de-Brunet, 10 minutes vers Puricard. Et puis la Nationale 7 au pont de Bayeux à cause des travaux. Il y a 10 minutes d'attente en direction de Tretz pour Marseille sur la 55 littorale. Bouchon entre Odo et la Gelette d'une demi-heure, 2,5 km. Et dans les rues de Marseille, c'est surtout encombré sur Salvador Allende ou encore sur la rue Paradis Prado 2 et de l'aide de Tassigny ainsi que le Redon en direction du Cabot. Pour Toulon, c'est plutôt calme sur les autoroutes. C'est moins calme à la Seyne-sur-Mer. La pyrotechnie, le centre de la Seyne-sur-Mer, 20 minutes de bouchon. Et attention à l'avenue Robert Brun où ça coince en direction de Toulon pendant une demi-heure. Vos infos route 04 42 38 08 08. Même numéro pour le Club Foot Marseille.
On fait la route ensemble avec Mollard Combustible, fournisseur de fuel sur la région PACA. Plus d'informations sur www.mollard.fr.
Jusqu'à 19h, le Club Foot Marseille.
Sur France Bleu Provence.
Et on va parler bientôt de cette banderole qu'avait fabriquée le club des supporters des ultras de Marseille après ces attentats à Paris. Nous sommes Paris avait inscrit les ultras sur une banderole noire qu'ils avaient suspendue au-dessus d'une voie qui est proche du boulevard Rabatteau. Et quelques heures après seulement, cette banderole a été réduite à néant. Le club des ultras est en train d'en fabriquer une autre. Vous pouvez nous appeler pour réagir 04 42 38 08 08. On va parler sécurité maintenant, messieurs, parce que c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de penser à cet Euro 2016 qui se profile. C'est dans 7 mois à Marseille. Est-ce que on peut craindre pour cet Euro 2016? D'abord, est-ce qu'il faut le maintenir? Ça paraît une évidence, peut-être, mais René Malville, votre avis?
Moi, je pense que, voilà, comme disaient beaucoup, de quelque bord que ce soit, il faut continuer à vivre, il faut pas reculer, parce que sinon ils auront gagné, les terroristes. Moi, je dis, l'Euro 2016, il faut le maintenir. J'espère que d'ici là, les méthodes de sécurité et d'investigation auront avancé et auront fait que on pourra faire, mais de toute façon, le risque est zéro, n'existe pas. Il n'existera jamais. Même si il n'existera jamais. Donc l'Euro, il faut le maintenir, mais avec des services de sécurité drastiques. Et voilà. Mais il faut le, moi, à mon avis, il faut le maintenir. C'est une obligation pour pas faire voir qu'on se cague dessus. Il faut rester debout.
On va en parler de façon de la sécurité de l'Euro 2016, puisque nous avons l'adjoint au sport de la ville de Marseille, Richard Miron, qui est en ligne avec nous. Dédé de Roca, juste avant de filer à Marseille, cet Euro 2016, est-ce qu'on peut avoir peur?
On a toujours peur. Les gens qui me disent qu'ils n'ont pas peur sont des menteurs. Il faut avoir peur. Mais pas une peur qui t'anesthésie et qui te paralyse. Mais il faut avoir peur, obligatoirement. Cela dit, l'euro, il faut le maintenir.
Richard Miron, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur France Bleu Provence ce soir. Après ces attentats, donc, on parle sécurité et l'Euro 2016 qui arrive très très vite, hein, c'est dans 7 mois. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que le Stade Vélodrome est une enceinte sportive sûre aujourd'hui?
C'est un des plus grands, plus beaux et plus sécurs stades en Europe. Mais je crois que vous savez, la sécurité 100% garantie, 100% partout, tout le temps, ça c'est pas possible. Ça serait une chimère que de le faire croire. Après, on est toujours plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien évidemment. Et je crois lorsqu'il y a des gros événements sportifs ou culturels ou économiques, mais en tout cas là, événements sportifs, bien il y a à la fois les flots de personnes, la circulation des personnes qui se rendent sur le site de déroulement des compétitions, en l'occurrence autour du stade Vélodrome, qu'on y aille en voiture, qu'on y aille en métro, ou qu'on y aille à pied ou en transport en commun divers, bien ça fait à un moment donné un afflux de personnes important, notamment sur à proximité des entrées.
Alors, Richard Miron, on attend 8 millions de spectateurs, de fans, de supporters venus de l'étranger, et 2 millions et demi de spectateurs. Je parle de l'Euro 2016.
Là, vous me parlez de l'Euro. Donc, il y a trois aspects bien différents. Il y a encore une fois la proximité du stade, il y a à l'intérieur du stade, et puis il y a tout ce qui est ailleurs dans la ville, la fan zone, mais ce qui est ailleurs dans la ville aussi. Alors, je crois que, vous savez, c'est sous l'autorité du préfet que tout ça est placé. Pour ce qui est de l'intérieur du stade, les choses vont être encore plus renforcées, mais d'ores et déjà, à travers les matchs qui vont se dérouler, d'ici là. Et puis également aussi, dans la ville, on a déjà vu qu'il y avait des forces militaires, des forces de police qui avaient été renforcées, qui s'installaient encore également aussi aux endroits un peu stratégiques. Et puis après, pour l'euro, eh bien, nous aurons nécessité, et c'est le rôle de l'État, d'assurer les biens et les personnes. Donc, il faudra de toute manière mettre des moyens supplémentaires. Alors, il se trouve que dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'État, c'est la compétence des villes, en tout cas, elle a été sous-traitée aux villes, on va le dire comme ça, de la part de l'État, de gérer les fan zones.
Les fan zones.
Le préfet a souhaité qu'elle soit sur les plages du Prado.
Oui, Richard Miron, 80 000 personnes. C'est une fan zone qui peut contenir 80 000 personnes avec des gens qui entrent, qui sortent librement. Comment vous allez faire pour assurer la sécurité de ce site?
Alors, c'est pas aussi, ils n'entrent pas, ils sortent pas aussi librement que ce qu'on veut bien le dire, puisqu'il y a un contrôle d'accès qui était prévu. Et donc, il va falloir renforcer très, très, très sérieusement tout cet espace-là. Et puis il y a aussi, vous savez, une fan zone naturelle à Marseille, c'est le tour du Vieux-Port, c'est l'agora naturelle qui se fait où tous ceux qui viennent voir un événement viennent là aussi. Alors il y a tous ceux qui seront attirés par la fan zone organisée, tous ceux qui auront la chance d'avoir un billet à voir l'intérieur du stade, et puis tous ceux qui viendront autour du Vieux-Port. Bah, tout ça est une sécurité à mettre en place. Je crois qu'on a quelques mois pour que le préfet prenne toutes les mesures de la tâche, de l'ampleur, et nous donne les directives qu'il conviendra de suivre.
Voilà. Merci Richard Miron d'avoir été en direct ce soir sur France Bleu Provence. Je rappelle que vous êtes adjoint au sport à la ville de Marseille. On va retrouver Michel Gau. Bonsoir Michel Gau.
Bonsoir.
Je le disais dans les titres de ce club foot Marseille, vous êtes le président du district de football de Provence. Vous étiez au match vendredi soir. Et dans la foulée des attentats, vous avez pris la décision donc d'annuler toutes les rencontres du district de Provence. Pour quelles raisons ? Pour des raisons de sécurité ou parce que le cœur n'y était pas ?
Bon, tout d'abord, la décision a été prise en commun accord avec le président de la Ligue de la Méditerranée, Alain Pourcu, qui a demandé au sein district concernant la Ligue de prendre la décision de ne pas faire jouer les rencontres. Premièrement, à titre d'hommage envers les gens qui ont perdu la vie dans des circonstances qu'on connaît aujourd'hui. Et puis ensuite, pour un peu sensibiliser tout le monde, mais pas par peur ou par quoi que ce soit, simplement parce que, je le redis encore une fois, il fallait rendre hommage à ces gens-là et pas se priver de marquer la journée comme on l'a faite.
Et dimanche prochain ou le week-end prochain, qu'est-ce qui va se passer sur les terrains de Provence ?
Alors à l'instant, on ne peut pas décider exactement ce qu'on va faire parce que bon, on est le district de Provence, c'est-à-dire l'association la plus basse dans le football par rapport aux ligues régionales et la fédération. On attend, j'ai eu le président Alain Pourcu à ce sujet, on attend un peu voir comment va se positionner la fédération. Et s'il n'y a pas d'opposition, la Ligue Méditerranée et les présidents de district qui la composent agiront ensemble pour faire certainement une minute de silence et voir porter un brassard, au moins pour les arbitres. Voilà,
pour tous les matchs officiels donc du district de Provence le week-end prochain. Merci en tous les cas Michel Gau d'avoir été en direct ce soir sur France Bleu Provence avec nous. Messieurs, c'est important quand même de signaler, de parler à nos jeunes, à nos minots dans tous les clubs. Bon, il y a eu une minute de silence aujourd'hui partout en France et dans les écoles, mais dans les clubs et dans les stades de foot, c'est important de leur parler de ces attentats.
Ben pour moi déjà leur faire comprendre quelque chose de très grave qui s'est passé. Moi, je sais que j'ai des petits-enfants, ils jouaient dimanche, ils n'ont pas joué. Lui de 14 ans, ça va, mais celui de 8-9 ans, bon, il faut leur expliquer. Et je trouve que c'est normal de leur faire voir que c'est vraiment quelque chose de grave. Et dimanche prochain, c'est beau de faire encore une minute de silence avec des brassards, leur faire comprendre que, oh, allez, on n'a pas joué un match. C'est pas grave, non, ça dure encore. 15 jours après, on y passe encore, il y a les brassards. Il faut que, c'est normal, c'est bien, c'est le minimum qu'on puisse faire.
Teddy de Roca, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes joueurs qui ont peut-être 7 ans, 8 ans, qui vont vivre une minute de silence, porter un brassard au cours d'un match le week-end prochain ?
Écoutez, le problème, c'est que moi, j'ai pas eu d'enfant. Donc je suis mal placé pour donner des conseils aux parents. Mais ce que vient de dire René est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il faut expliquer. Comme disait quelqu'un d'autre, il faut que les bouches s'ouvrent. Il y a eu suffisamment, pendant des mois et des mois, de non-dits, de mots qui étaient pratiquement imprononçables, allez savoir pourquoi, qu'on a abouti à ce que vous savez. Donc il faut leur expliquer, il faut sans violence, sans haine, leur expliquer pourquoi il y aura une nuit de silence et pourquoi ils porteront un brassard noir, éventuellement les arbitres, et peut-être même les joueurs, pourquoi pas.
Et puis tu sais, je vais te dire le truc... Ah, pardon. Regarde, je t'ai dit, il y a un grand supporter qui tenait une rubrique sur hors-jeu, il s'appelait Matt Professor, et moquait.
On va en parler, René.
Ah bon, d'accord. Mais il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, qui lisaient ce type, il avait un humour caustique, il était très, très, très lu, très écouté. Eh ben, les jeunes, quand j'ai mis notre ami le Matt Professor est mort dans les fusillades à Paris, Mais là, ils ont réalisé certains. Alors que là, bon, on a tué un, on a tué l'autre, ils connaissaient personne. Est-ce que des gens importants, entre guillemets, connus comme ça, le mal professeur, eh bien, beaucoup de jeunes ont réalisé quand même qu'il s'était passé quelque chose. Ils ne pourront plus lire ce qu'ils n'y écoutaient, leurs amis, je veux dire.
Et d'un coup, ils étaient tout proches, donc directement impactés par ces attentats. C'était un blogueur marseillais spécialisé donc, dans le foot, le Mad Professeur, notamment sur le site hors-jeu.net. On le signale ce soir. Et bien sûr, on salue sa mémoire. Messieurs, maintenant, l'affaire de la banderole.
Vous aussi, donnez votre avis.
04 42 38 08 08.
Le Club Foot Marseille.
Alors voilà une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, messieurs. Une banderole noire marquée Nous sommes Paris et en dessous Ultra Marseille. C'est une photo qui donc a été saluée par tout le monde. Et on a appris que quelques heures plus tard, elle avait été réduite en charpie par des individus inconnus. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelles sont leurs motivations, mais on a Didier qui nous a appelé à ce sujet. Didier, vous êtes arbitre amateur.
Oui.
Et vous êtes, est-ce que vous vous êtes étonné qu'à Marseille, une banderole comme ça n'ait fait que quelques heures?
Non, je ne suis pas étonné. Mais c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce stade, il y a des gens qui sont contre la France. C'était pas normal parce que Marseille joue en championnat de France.
Dans le stade Vélodrome, vous voulez dire?
Ben, si elle a été arrachée dans le stade Vélodrome, moi j'y étais pas.
Non, elle était au-dessus d'un pont qui est pas loin du boulevard Rabatteau, c'est-à-dire sur la voie publique. Elle n'était pas dans le stade.
Ah, elle n'était pas dans le stade. Bon.
Elle était à l'extérieur du stade.
L'extérieur du stade. Donc si elle a été arrachée, il se trouve que dans cette ville, malheureusement, on a des gens qui n'aiment pas la France.
Qui n'aime pas la France, c'est ce que vous nous dites?
Oui, si elle est arrachée, forcément. Parce que là, on peut dire qu'on est tous Paris, quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai même envie de porter le maillot du PSG. Pour ça, je suis arbitre de l'Olympique de Marseille. Dans ces cas-là.
En tous les cas, merci pour votre appel, Didier. Je comprends que vous trouviez ça scandaleux. René, juste une chose. Le stade Vélodrome, on le sait, on le dit, on le répète tout le temps, c'est le lieu où se côtoient tous les milieux, toutes les communautés. Et c'est vrai que cette banderole a été saluée comme un beau geste. Et on s'étonne ce soir qu'elle ait été arrachée.
Ouais, mais moi, je suis pas trop d'accord avec Didier. C'est pas des mecs qui aiment pas la phrase, on va pas quand même extrapoler. C'est des cons qui... Paris, jette ci, Paris, jette là. C'est des anti-PSG, mais ils font un amalgame de tout. Et du roman que c'est Paris, c'est Germain, on fait l'amalgame. C'est des abrutis finis. Voilà, c'est des gros connards. Il faut le dire, il faut les traiter comme ça. Que quand ils marchent dans la rue, s'ils pouvaient dire c'est moi qui l'ai fait, qu'on puisse dire tu es un gros con. Voilà.
Dédé de Rocam.
Ouais, je te rassure, René, ils diront pas que c'est eux qui l'ont fait.
Avec vos mots à vous, peut-être un peu plus adoucis, mais vous êtes persuadé que ce sont des supporters anti-PSG qui ont fait ça?
Pas forcément. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas du tout apprécié les commentaires qui ont suivi ce qui s'est passé à Paris. Je n'irai pas, comme notre ami auditeur, à dire qu'ils sont anti-français, mais en fait, je pense qu'ils portent pas la France dans leur cœur, et que est-ce qu'ils auraient arraché la même banderole s'il y avait Je suis Bordeaux, sans doute, et je suis pas sûr qu'ils l'auraient arraché s'il y avait marqué Je suis Daesh, quoi.
Allez, à 18h46, on va marquer une pause pour faire un point sur la route, Cédric.
Sur la 55 au delà Joliette, 2 km de ralentissement, un quart d'heure pour entrer dans Marseille. L'autoroute Nord Plombières-Saint-Charles, il y a moins d'un kilomètre de ralentissement. À Aix-en-Provence, c'est très compliqué sur la D9 rentrante à partir du Parc Club du Golfe jusqu'à la Pioline. Vers Aix, 4 km de bouchon, plus de 20 minutes. Il y a sûrement quelque chose d'anormal. Si vous savez pourquoi, vous nous appelez 04 42 38 08 08. La Gremeuse, le Lac Bleu, 2 km de ralentissement. L'entrée de Calas vers Plan de Campagne, 20 minutes de bouchon. La Gremeuse, la Durane, 10 minutes de ralentissement. On a aussi beaucoup de monde entre le parc d'activité de la Mounine, le pôle d'activité d'Aix, pardon, et la Mounine, vers Bouc-Bel-Air pendant 20 minutes sur la D59. Pour le Puy d'Aubagne et de l'Étoile, attention à l'A520, le péage d'Oriol vers Saint-Zacharie, on a 2 km de bouchon pendant un gros quart d'heure. Pour l'agglomération de Toulon, il n'y a plus rien sauf entre la Pyrotechnie et la Seine-sur-Mer où il y a encore un quart d'heure d'attente. Et dans les rues de Marseille, c'est surtout sur de l'aide de Tassigny, le secteur de la Valentine, de la Timone, la rue Paradis, de Sainte-Marthe et des olives où ça coince le plus. Enfin, autour de l'étang de Berre, des 113, Vétrolles, Rognac, un quart d'heure de bouchon en direction de Salon. Dans l'autre sens, vers Marseille, sur la contre-allée de la 7, 10 minutes de bouchon. Il y a un peu de monde à la phare et à l'entrée de Marignane sur la D9.
On fait la route ensemble avec Mollard Combustible, fournisseur de fuel sur la région PACA. Plus d'informations sur www.mollard.fr.
France Bleu. Ouigo, les trains à grande vitesse à petit prix arrivent dans votre ville et vous encouragent à bouger.
Oui, 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 allons à Paris, 300 km/h, à tout petit prix, oui.
Désormais à bord des trains Ouigo, partez à Paris à 300 km/h à partir de 10 euros. Rendez-vous dès demain sur Ouigo.com, voir conditions sur Ouigo.com.
Le Club Foot Marseille.
Sur France Bleu Provence.
Jusqu'à 19h, l'équipe de France qui est donc arrivée en Angleterre pour y disputer demain son deuxième match amical en quelques jours. Notez que les joueurs anglais ont observé à midi, en même temps que toute la France, messieurs, une minute de silence. Demain, le stade de Wembley sera aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, et le public anglais sera invité à entonner la Marseillaise en même temps que les joueurs avant le match. D'ailleurs, dans la presse, les paroles de la Marseillaise ont été publiées dans les journaux pour que le public anglais puisse les apprendre. Messieurs, il y a un joueur marseillais qui a perdu un être cher au cours de ces attentats parisiens. C'est Lassana Diarra, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. On va en reparler, mais avant cela, Maud de Bourquenay, une précision, c'est une cousine de Lassana Diarra qui a perdu la vie.
Elle s'appelait Asta Diakité et c'est sur Twitter que le joueur annonçait sa mort. Le cœur lourd, pour reprendre ses mots. Il explique que sa cousine figure parmi les victimes au milieu d'une centaine d'autres Français innocents. Visiblement très attaché à elle, il explique qu'elle était pour lui un repère, un soutien, une grande sœur. Le joueur de l'OM invite à l'unité et s'exprime ainsi. Dans ce climat de terreur, il est important pour nous tous de prendre la parole et de rester unis face à une horreur qui n'a ni couleur, ni religion.
Maude de Bourquenay, Lassana Diarra, qui a donc tenu quand même à faire partie du groupe pour ce déplacement, donc de l'équipe de France en Angleterre. Question, messieurs, ça va pas être facile pour Didier Deschamps de trouver les mots. Est-ce qu'il fallait jouer ce deuxième match en Angleterre?
J'ai presque envie de vous dire, on s'en fout. On s'en fout. Alors moi, je pense que ça n'influera pas vraiment sur le cours du match, parce qu'une fois que les joueurs sont sur le terrain, ils pensent à jouer au football, ils pensent pas à autre chose. Mais je tiens quand même à féliciter Lassana Diarra pour son tweet, pour son email. C'était tout à fait remarquable, alors que les événements venaient de se passer. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou si on l'a écrit, mais en tout cas, c'est tout à fait remarquable et c'est digne d'éloge. Voilà un garçon qui a perdu quelqu'un de cher et qui, sans haine et sans violence, nous rappelle à nos fondamentaux.
René Malville.
Ah ben moi, je suis absolument d'accord et j'ai été scandalisé, mais là, malheureusement, je l'ai recherché, je l'ai pas retrouvé sur la toile. Un mec, il dit, on s'en fout, il y a pas que lui qui a perdu du monde. J'ai essayé de retrouver ce truc pour faire le photocopie, j'ai pas trouvé. Mais il est tellement bon que des gens qui ont une aura, une audience, comme un Lassana Diarra qui est à l'OM, et un de ceux, si ce n'est pas le seul, exemplaire depuis le début de la saison. Un mec comme ça, qui s'exprime alors qu'il a été touché dans sa chair, je trouve que c'est superbe. Et puis voilà, et puis il est de l'OM, c'est un joueur, il est chez nous, c'est la famille, et puis il est loin d'être con, et comme dit Dédé, ce mec était superbe.
Ouais, mais Didier Deschamps, là, il a dans son effectif Lassana Diarra qui a perdu une cousine dont il était manifestement très proche.
Oui, mais s'il a voulu aller, faire partie du groupe, c'est qu'il assume de jouer.
Il y a Antoine Griezmann, René. Antoine Griezmann, qui avait sa sœur qui était présente au Bataclan, qui est une survivante du Bataclan. Donc, on imagine l'ambiance au sein de cette équipe de France qui va jouer un match amical demain en Angleterre.
Oui, mais selon toute vraisemblance, Diarra et Griezmann ne feront pas partie du titulaire au coup d'envoi. Vous savez, Deschamps va faire ce qu'il avait fait lors des derniers matchs internationaux, c'est-à-dire que d'un match sur l'autre, il va changer l'équipe à 80-90%. Mais ces gens-là sont quand même des athlètes de haut niveau qui semblent avoir une perception très noble de leur profession. Et s'ils sont sur le terrain, mais je vous garantis qu'ils vont jouer normalement. Ça ne va pas empêcher qu'ils auront de la peine, mais ils vont jouer normalement. Quant à la position du public anglais, des joueurs anglais, des responsables anglais, des médias anglais, écoutez, je m'en félicite. Je suis de ceux qui pensent que les discours ne suffisent pas. Mais quand même, quand on a des actes solidaires comme ceux-là, il faut s'en réjouir.
On est d'accord que l'intérêt sportif, il est nul demain. C'est un match hommage.
Absolument. Surtout que les Anglais aussi ont payé un lourd tribut déjà au terrorisme. Il y a eu l'affaire du métro, tout ça. Ils savent ce qu'il en est. Et puis s'ils ont fait ce geste-là et qu'ils ramotent tout le pays derrière la France, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent aussi.
Messieurs, on accueille un habitué du club foot Marseille. Zachary, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Zachary.
Bonsoir Zachary. Comment vous avez vécu cet épisode douloureux pour la France?
Moi, au départ, comme la plupart des Français, j'ai cru que c'était des engins pyrotechniques, des pétards et tout. Et après, ça regardait un peu sur les réseaux sociaux que j'ai vu, voilà, que c'était...
C'est-à-dire en direct à la télé, les explosions, vous avez pris ça pour des bombes agricoles?
Ouais, c'est pour ça? Des bombes agricoles, voilà. Après, vu que les commentateurs n'en ont pas parlé, ont juste, fait illusion. Je ne suis pas plus inquiété que ça. Après, c'est à la mi-temps que j'ai commencé à voir que c'était que la situation était un peu chaude, voire très, 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 très chaude, une forme de guérilla urbaine. Et c'est là où j'ai vu de suite, sans avoir la vie des experts, j'ai su que c'était Daesh. C'était des représailles par rapport à la guerre que la France mène en Syrie. Après, voilà, la guerre de la France est noble, il n'y a pas de souci, Daesh c'est une secte. Après, moi, M. Doroca, vous m'avez fait bonjour tout à l'heure quand vous avez dit, je suis sûr que s'il y a une banderole écrit « je suis Daesh », moi je suis le premier à y aller, à la brûler et à en faire une photographie et les envoyer à Daesh.
Si vous avez bondi, c'est que vous n'avez pas compris, hein. J'ai dit que ceux qui avaient déchiré la banderole « Je suis Paris » auraient sans doute déchiré une banderole « Je suis Bordeaux » et n'auraient pas déchiré une banderole « Je suis Daesh ».
Ouais, mais après, dans les médias, il y a trop d'illusions. Entre, voilà, moi, je connais beaucoup de gens de confession musulmane, je connais beaucoup de gens de quartier, voilà, et Daesh...
Mais je vous dis pas que c'est des gens de condition musulmane, je suis le premier à savoir que ceux qui morflent le plus dans ces gars, ce sont les musulmans. Vous allez pas me faire un cours d'histoire, quand même. Je dis que les gens qui ont déchiré la banderole « Je suis Paris », je pense qu'ils sont proches de Daesh, voilà. C'est clair, là.
Moi, je pense qu'ils sont proches de l'Olympique de Marseille.
Ouais, alors, si
c'est
les gens.
Ils sont cons, c'est tout.
Si les gens qui sont proches de l'Olympique de Marseille, ils sont cons à ce point, il vaut mieux aller voir jouer les Girondins de Bordeaux, le GC Nice.
Dans le passé, avec la rivalité au M. Paris.
Bon, messieurs. On est en train d'établir une sorte d'échelle de la stupidité. On est tous d'accord ici autour de cette table pour dire que ceux qui ont enlevé cette banderole, quelle que soit de toute façon leur motivation, alors que cette banderole était assez belle et ce geste salué, sont manifestement
des ultras quoi, qui passent quelquefois pour des voyous qui ne sont pas. Je veux dire, il faut applaudir des deux mains cette initiative.
Zachary, juste une chose à propos du match de demain. Vous pensez il fallait le jouer ce match
il faut le jouer pour honorer la mémoire des gens qui ont perdu la vie. C'est voilà, il faut montrer qu'on est en vie. Si on montre qu'on vit dans une société de terreur, à la moindre occasion, on va se dire ils ont peur, on va leur faire 2-3 attentats et ils vont vivre encore dans la peur. Non, il faut montrer qu'on est une société forte. Avec un esprit collectif et que, voilà, qu'on pleure nos morts et qu'on les célèbre une bonne fois pour toutes et que chaque année, voilà.
Si je vous comprends bien, vous continuerez d'aller évidemment au stade et quand l'Euro sera là, vous irez regarder les matchs.
Malheureusement, j'ai pas les moyens d'aller au Vélodrome lors de l'Euro vu que les places sont super chères, mais voilà, j'espère que le stade de Vélodrome sera rempli. Voilà, pour montrer que Daesh ne me fait pas peur. Voilà, en tous les cas, c'est une secte. En tous les cas, on est en France. Mais la France, c'est quand même une armée assez solide, assez reconnue dans le monde. On va pas se faire intimider par quelques clowns avec deux lance-roquettes et trois tanks, quand même. C'est voilà, normalement, si on...
Alors, demain, je crois qu'il y a
des clowns qui ont fait 130 morts, quand même.
Ouais. Ouais. En tous les cas, merci Zachary pour votre intervention ce soir dans ce club foot Marseille un petit peu spécial et on espère, messieurs, que ce sera évidemment le dernier qui aura cette teneur-là. Je vous signale juste que Hugo Lloris est en train en conférence de presse, de signaler qu'il joue le match de demain pour notre pays et pour les victimes. Dédé Doroca.
Je voudrais juste dire un mot sur l'Euro qui va venir. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit qu'il fallait absolument qu'il se joue, mais attention. Il va falloir voir ce qui se passe d'ici l'Euro. C'est exactement la même chose pour les Jeux Olympiques, la Paris qui est candidat pour 2024. Il est évident que si d'autres attentats devaient survenir en France avec les répercussions que celui-là a, je ne suis pas sûr que le comité olympique désignera la France, car ils sont très pointilleux sur la sécurité.
Messieurs, juste un mot, on va reparler football, mais Lassana Diarra, normalement, il va rentrer avec le du groupe France, là, de cette trêve internationale cette semaine, est-ce que vous pensez qu'il peut être aligné contre Saint-Etienne dimanche? Parce que l'OM reprend le championnat dimanche à Saint-Etienne.
Il a perdu quelqu'un dans des conditions terribles et des conditions qui sont peu communes. Mais enfin, ce ne serait pas la première fois qu'un joueur qui a perdu soit son père, soit sa mère, soit un de ses parents et tout, enfile quand même le maillot, qu'il soit de l'OM ou de notre club, pour jouer.
Mais par exemple, Didier Deschamps, pour préserver Mathieu Valbuena parce qu'il n'est pas dans les conditions optimum, préfère l'écarter du groupe avec l'affaire de la sextape. Là, on a quand même un joueur qui vient de vivre un moment émotionnellement très très fort et qui peut peut-être le sortir de ses souliers.
Ouais, mais dans l'histoire de Benzema Valbuena, c'est un contentieux entre deux joueurs de l'équipe de France. Et il est évident que Deschamps ne peut pas favoriser un joueur par rapport à l'autre, qu'il est plus prudent qu'il attende le verdict de la justice pour prendre une décision. Là, c'est un deuil, c'est sans doute terrible pour Lassana Diarra, puisque sa cousine représentait beaucoup pour lui, mais je ne crois pas, enfin, je sais pas, je suis pas dans la tête de Diarra, mais je crois pas que ça l'empêchera de faire son match s'il est titularisé.
C'est que si on peut faire le jour à Diarra que de comparer son histoire.
Je compare
avec,
pas.
Avec les merdes de.
Je dis juste que quand on n'a pas l'esprit à jouer, est-ce que c'est bon d'être aligné?
Oui, mais Diarra, on connaît son caractère, on sait que c'est un homme d'honneur, c'est un mec, un professionnel jusqu'au bout des ongles, et même s'il est contre cet été, il est sur le banc, mais je suis persuadé Deschamps, il fait ce qu'il veut, je suis pas dans la tranchée Deschamps, mais je suis sûr que quand c'est Etienne, il sera au minimum sur le banc, vous pouvez voir qu'il est là, et il faudra l'acclamer ce garçon, parce que non seulement c'est un très grand professionnel, c'est un des meilleurs qu'on a à l'OM, parce qu'il est le meilleur, et il mérite quand même un hommage.
Allez, merci messieurs pour ce Club Foot Marseille spécial, en espérant donc que ce soit le dernier. Demain, France-Angleterre, 21h, et dimanche, ce sera à suivre sur France Bleu Provence, Saint-Etienne OM, la reprise du championnat à partir de 21h.
Merci Fabien Ledul, Club Foot Marseille en podcast sur francebleu.fr, et vous pouvez nous appeler pour continuer de réagir, cette fois au 0810 055 056. La France peut-elle s'unir contre le terrorisme? Denis Farreau vous attend dans France Bleu Soir dans 30 secondes, 0810 055 056.